Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. 75 ans plus tard, des cérémonies empreintes d'émotion à Portsmouth, les dirigeants d'une quinzaine de pays sont réunis en Angleterre pour commémorer le débarquement. Reportage d'Antoine Gignot. Bruxelles annonce une possible procédure de déficit contre le gouvernement italien. La coalition populiste rejette la faute sur les précédentes politiques d'austérité et sur le manque de solidarité européenne face aux migrants. Deux jours après l'intervention meurtrière des forces de sécurité soudanaises, l'armée propose la reprise du dialogue. Pour l'alliance de l'opposition et des manifestants, il n'en est pas question. Enfin, Yannick Jadot voit grand depuis le succès de la liste Europe Écologie Les Verts aux européennes. Selon lui, les écologistes peuvent conquérir et exercer le pouvoir. Analyse de Stéphane Robert. Hommage à ceux qui sont tombés pour libérer l'Europe du joug nazi. Il y a 75 ans, à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, Donald Trump, Emmanuel Macron, la reine Elisabeth II et d'autres dirigeants se sont joints à 300 vétérans pour célébrer le 75e anniversaire du débarquement. Ils étaient réunis pour évoquer le passé, mais la cérémonie faisait écho à la politique actuelle, Antoine Gignot.
Sur les chansons des années 40, les danseurs envahissent la scène, chignons gigantesques et robes à volant. Avec un chœur de 90 personnes, un orchestre de 70 musiciens, en arrière-plan des images d'archives et sur scène des militaires et des chefs d'État.
Je veux une France libre et des Français heureux.
Emmanuel Macron reprend la lettre d'un jeune résistant fusillé par les nazis. Donald Trump rend hommage aux soldats et la reine, robe et chapeau rose, prend la parole. Dans un message retransmis à l'époque à la radio, dit-elle, mon père, George VI, disait « Ce qu'on nous demande à tous, c'est plus que du courage, il nous faut renouveler notre esprit. » Un message qui résonne singulièrement au moment où le Royaume-Uni s'apprête à sortir de l'Union européenne. C'est cette alliance entre les peuples que veut retenir Steph Sandel, l'un des vétérans. Pour ceux qui l'ont vécu, c'est impossible à oublier, dit-il. Mais quand je vois qu'on est aujourd'hui autour de 200 vétérans, nous sommes de moins en moins nombreux. Alors jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Je ne sais pas, mais il faut qu'on se souvienne, ça ne fait aucun doute. Au total, 300 vétérans, toutes nationalités confondues, vont ce soir monter sur le MV Boudicca, navire militaire, pour traverser la Manche et continuer les célébrations en France.
Antoine Gignot à Portsmouth pour France Culture. La Russie appelle à ne pas exagérer l'importance du débarquement allié du 6 juin 1944 et à ne pas minorer le rôle de la Russie dans la défaite d'Hitler. Sans les efforts titanesques de l'Union soviétique, tient à rappeler la diplomatie russe, cette victoire n'existerait tout simplement pas. Depuis des années, nous donnons sans recevoir et comme si ça ne suffisait pas, ils nous font la morale. Voilà comment réagit le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio à l'avertissement lancé par Bruxelles à Rome. C'est en raison de la colossale dette italienne que la Commission européenne a ouvert la voie à des sanctions financières. Elle recommande l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif contre Rome et fait réagir la coalition populiste. Mais que risque réellement l'Italie, Angélique Boin ?
Eh bien, à l'issue d'une procédure complexe, l'Italie pourrait avoir à payer une amende colossale. La Commission prévoit des sanctions qui pourraient en effet monter jusqu'à 0,2% du PIB d'un pays, ce qui, pour l'Italie, troisième économie de la zone euro, pourrait faire monter l'addition à 3,5 milliards d'euros. En cause, sa dette abyssale qui s'est encore creusée cette année. Elle atteint 132% de son PIB en 2018. Elle pourrait grimper à plus de 135% en 2020, bien au-delà du seuil de 60% fixé par les règles européennes. La Commission propose donc l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif, mais à ce stade, il ne s'agit que d'une menace. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, estime que la balle est dans le camp des Italiens.
Ma porte est ouverte, à un échange sincère. Si on veut éviter cette procédure, ce que je continue de souhaiter, simplement, à un moment donné, quand on n'est plus du tout dans les clous, alors il faut le constater, les règles doivent être respectées. Ce sont des règles que tous les pays de la zone euro respectent. La moyenne de la dette dans la zone euro est en dessous de 85%. Il faut des changements, sans quoi une procédure pourrait être ouverte, oui.
Mais ce sera aux États membres de le décider formellement. Le sujet sera au menu de l'Eurogroupe la semaine prochaine. Et l'ouverture d'une telle procédure de discipline pourrait avoir lieu mi-juillet. Il n'y a pas de temps à perdre, a conclu Pierre Moscovici à l'adresse des responsables italiens.
Angélique Boin à Bruxelles. Alors que la France se montre très réticente à rapatrier ses ressortissants partis en Syrie, deux Américaines et six enfants issus de familles liées au groupe État islamique en Syrie ont été remis aux États-Unis par les autorités locales kurdes. Ils étaient dans le camp de déplacés d'Al-Hol, dans le nord-est syrien, où sont détenus des milliers d'étrangers affiliés aux djihadistes. Leur rapatriement se fait à la demande du gouvernement américain, en application de la doctrine de l'administration Trump, Grégory Phillips.
L'identité de ces deux femmes et six enfants n'a pas été révélée, mais les autorités kurdes précisent qu'à la demande des États-Unis, ces huit ressortissants américains ont quitté le camp d'Al-Hol où sont détenus des milliers de djihadistes étrangers et ont été rapatriés dans leur pays d'origine. L'été dernier, Washington avait déjà annoncé le rapatriement de deux autres ressortissants, un homme et une femme, ramenés aux États-Unis pour y être jugés. En revanche, le cas de Hoda Mutana, une jeune femme d'origine yéménite, née dans le New Jersey et qui a rejoint l'État islamique en 2014, n'a pas été tranchée, car les autorités américaines assurent qu'elle n'a pas la nationalité. Il y a deux mois, Donald Trump fustigeait les gouvernements européens, les accusant de ne pas prendre en charge leurs ressortissants afin de les juger dans leur pays d'origine, oubliant de préciser que les États-Unis ont un nombre de cas à traiter beaucoup moins important que la France, par exemple, car seules une ou deux dizaines de ressortissants américains ont rejoint les rangs de l'État islamique et ils sont peu nombreux à être encore aujourd'hui détenus par les autorités kurdes.
Grégory Phillips à Washington. Après le massacre perpétré au cœur de la révolution à Khartoum, les putschistes reculent. Le chef de la junte au pouvoir affirme que le conseil militaire est prêt à reprendre les négociations sans conditions préalables. Un retournement à 180 degrés après un bain de sang et des violences qui continuent dans la capitale. Le dernier bilan s'élève pour l'instant à au moins 60 morts. La correspondance de Sébastien Nemeth à Khartoum.
Alors que la tuerie du sit-in a entraîné une vague de condamnations internationales, les putschistes semblent sur la défensive. Après avoir annoncé l'arrêt total du dialogue et l'annulation de tous les accords conclus avec la coalition civile, Abdel Fattah al-Burhan, leader de la junte, a déclaré qu'il était prêt à reprendre les négociations sans conditions préalables. Sans expliquer ce changement de stratégie, l'officier a déclaré que le conseil militaire était prêt à ouvrir ses bras au dialogue avec toutes les parties dans l'intérêt du pays. Emeti, le chef des forces de soutien rapide, la milice paramilitaire accusée d'être la première coupable du massacre, a accusé des Soudanais d'avoir usurpé l'identité des FSR pour terroriser les civils. Une affirmation difficile à croire alors que de multiples témoignages affirment que les miliciens étaient en première ligne du bain de sang avec uniformes et véhicules très reconnaissables. Certains de leurs éléments sont même accusés d'avoir porté des uniformes de policiers pour s'en prendre aux civils.
L'opposition soudanaise rejette l'offre de reprise du dialogue et plusieurs organisations des droits humains demandent une action urgente de la communauté internationale face à la répression violente au Soudan. Après leurs bons résultats aux élections européennes, les écologistes se découvrent des ambitions pour la suite. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, Yannick Jadot explique vouloir conquérir Paris, Nantes, Rennes et Toulouse, entre autres, aux élections municipales. Au-delà de ça, il veut devenir l'alternative à la fois à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. En résumé, Stéphane Robert, Le Nouveau Monde, c'est Yannick Jadot.
Oui, Yannick Jadot fait le constat, comme d'autres, qu'à l'issue des élections européennes, le paysage politique français est sans dessus-dessous, que la gauche est en miettes, que la droite est effondrée et que les structures de la vie politique sont sans doute en train d'évoluer en profondeur et de façon durable. Dès lors, du haut de ces 13,5%, il imagine qu'il y a une dynamique et que le temps de l'écologie politique est arrivé. Autrement dit, il se voit déjà comme l'un des acteurs majeurs de la vie publique dans les années à venir et il dévoile ses ambitions. D'abord, les municipales. On veut gagner de grandes villes, explique Jadot dans cet entretien au journal Le Monde. Nantes, Rennes, Toulouse, Paris et d'autres. Plus encore, vous le disiez, il veut agréger les forces politiques autour des écologistes en dehors du clivage droite-gauche pour devenir l'alternative à la fois à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen afin, au bout du compte, de conquérir et d'exercer le pouvoir. Dès lors, la question est, Yannick Jadot a-t-il de légitimes ambitions ou bien est-il un peu dans la position de la grenouille dans la fable de La Fontaine qui se voit aussi grosse que le bœuf? Plusieurs éléments de réponse vont pour le moment dans le sens de la deuxième hypothèse. D'abord, les Verts ont régulièrement fait de bons scores aux européennes sans que ça se confirme par la suite. La raison en est que c'est un scrutin très particulier où il y a peu d'enjeux de pouvoir. Les électeurs n'ont pas le sentiment de confier les clés de la maison à celui pour qui ils votent. Ensuite, la cause environnementale ne constitue pas à lui seul un projet politique et les écologistes n'ont pas grand-chose d'autre à vendre à un électorat qui jusqu'ici s'est montré très volatile. Et enfin, les Verts ont de moins en moins le monopole de l'écologie. Les autres formations politiques ont intégré la cause environnementale dans leur programme, même le Rassemblement national.
Et à 18h20 dans Du Grain à Moudre, Hervé Gardette demandera à ses invités si l'écologie va dynamiter les clivages. La mairie de Lyon et le domicile de Gérard Collomb ont été perquisitionnés. Le parquet national financier l'a confirmé. Une enquête préliminaire a été ouverte sur des soupçons de détournement de fonds publics au bénéfice d'une ex-compagne du maire employée par la municipalité depuis 1995. L'ouverture de cette enquête pourrait porter un coup aux ambitions du maire qui compte briguer de nouveaux mandats l'année prochaine à la mairie et à la métropole. Vous suivez cette affaire depuis Lyon, Christophe Vincent.
Oui, et une seule certitude ce soir, la présence d'enquêteurs depuis la fin de matinée à l'intérieur de l'hôtel de ville. Vers 11h30, on a vu arriver deux policiers en civil avec des sacs à dos. À la mi-journée, des plateaux repas du traiteur habituel de la mairie ont été livrés. Peu après 15h, deux autres enquêteurs présumés sont ressortis avec cinq sacs bien remplis. Devant le domicile de Gérard Collomb, sur les hauteurs de Lyon, à 1 km de la basilique de Fourvière, le mystère est entier. On sait qu'il y a ou qu'il y a eu une perquisition, mais quand on questionne les habitants de cette résidence, personne n'a rien vu. Tout est parti en fait d'un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville, transmis au parquet national financier. Ce rapport pose des questions sur les emplois municipaux occupés par l'ex-compagne du maire depuis 24 ans, des emplois modestes comme chargé d'accueil ou bibliothécaire. Gérard Collomb n'a jamais nié leur existence. Il a lui-même déclenché une enquête administrative, enquête dont les conclusions doivent être connues courant juin, d'où la réaction du maire dans un communiqué à l'AFP. Il juge les fuites intolérables et inacceptables.
Christophe Vincent, en direct de Lyon. 4 mois de prison avec sursis, c'est ce qu'a requis le parquet de Paris cet après-midi à l'encontre d'Éric Drouet. Ce leader du mouvement des Gilets jaunes comparaissait devant le tribunal correctionnel pour participation à un groupement formé en vue de violence ou de dégradation et pour port d'armes prohibées de catégorie D. Les faits remontent au 22 décembre dernier. 6e acte des Gilets jaunes, Éric Drouet est interpellé par la police lors d'une manifestation non déclarée. Sur lui, un bout de bois, une matraque en bois pour l'accusation. Éric Drouet est venu armé, selon le procureur, qui a requis de la prison avec sursis. Pour l'avocat du prévenu, maître Kéops Lara, cette affaire est le reflet d'un acharnement de la justice envers les Gilets jaunes.
Il y a les casseurs et il y a les gens qui manifestent pacifiquement. Et ces gens qui ont manifesté pacifiquement pendant plusieurs mois, aujourd'hui, la justice a été instrumentalisée. C'est ce que j'avais à cœur de dénoncer aujourd'hui avec Éric Drouet. Ce qu'il a vécu en premier, ça a été appliqué à d'autres personnes avec des interpellations spectaculaires, injustifiées, des gardes à vue injustifiées, des rétentions injustifiées. Et pour des motifs futiles. Si on commence à reconnaître qu'un morceau de bois, c'est un port d'armes de catégorie D, vous en risquez 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, c'est ce que j'expliquais, vous venez avec votre parapluie. Bah oui, c'est une arme. C'est la même forme, c'est la même chose. Mais où va-t-on? Mais ça, il n'y a que les Gilets jaunes qui se permet ce genre de choses. Et j'avais à cœur de le dénoncer aujourd'hui. Au tribunal, il est temps aussi que la justice prenne sa responsabilité. Beaucoup de Gilets jaunes pacifiques, on les présente à la justice, on les présente déjà comme coupables à l'opinion publique. Éric Drouet, ça fait des mois qu'on traîne cette affaire avec ce fameux port d'armes et son image. Cette décrédibilisation qui est voulue très clairement contre les Gilets jaunes, c'est une supercherie.
L'avocat d'Éric Drouet a donc plaidé la relaxe pour son client. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 4 septembre. Pour d'autres Gilets jaunes, le jugement est tombé. 6 mois de prison ferme contre les 5 prévenus poursuivis pour des violences sur des journalistes et leurs agents de sécurité à Rouen lors d'une manifestation en janvier dernier. Les images avaient circulé sur les réseaux sociaux et avaient choqué dans le monde entier. Au palais de justice de Rouen, le compte-rendu d'audience d'Antoine Marette.
6 mois ferme, c'est moitié moins que les réquisitions de la procureure. Les 5 prévenus, tous des hommes, participaient ce samedi 2 janvier à la manifestation des Gilets jaunes et c'est peut-être leur seul point commun. Certains semblent à peine sortis de l'adolescence alors que l'un d'entre eux approche les 60 ans. Certains ont déjà un casier judiciaire bien chargé, d'autres n'ont jamais été condamnés. Certains enfin sont en rupture familiale et sociale, d'autres ont un emploi stable et une famille. Tous semblent surpris d'être là, dans la salle d'audience. Ils ne manifestent aucune réaction lors de la diffusion des vidéos montrant la foule s'en prendre aux 2 journalistes et à leurs agents de sécurité. Chacun est accusé d'avoir participé à ces violences. Tous ne les reconnaissent pas. Ont-ils visé les journalistes en raison de leur profession? Oui, si l'on en croit le nom de BFM TV qui revient plusieurs fois comme une insulte dans la foule déchaînée. La première chaîne Info de France, mais pas celle des 2 journalistes qui sont de LCI. Leur avocat s'indigne. Quand on s'attaque à un journaliste, on s'attaque à la liberté d'expression, on s'attaque à la démocratie. Ces 2 clients n'ont subi aucune blessure physique, mais ce qu'ils ont subi restera selon lui une expérience douloureuse, la frayeur de leur vie. C'est l'un de leurs agents de sécurité qui a été physiquement blessé, coup de poing et coup de pied au visage, résultat un nez cassé, une pommette enfoncée et 20 jours d'ITT. L'un des prévenus explique avoir porté les coups parce qu'il le prenait pour un policier. La procureure dénonce des faits graves, lâches et gratuits. Elle s'indigne de l'absence de remords des prévenus. Ceux-ci bredouillent malgré tout quelques excuses formelles avant que le tribunal ne se retire pour délibérer.
Antoine Marette, au palais de justice de Rouen. Le Conseil national de l'Ordre des médecins demande l'organisation d'une concertation d'urgence pour mettre un terme au conflit social qui dure depuis près de 3 mois dans les services d'urgence. Entamé mi-mars à Paris, le mouvement de grève s'est étendu à plusieurs dizaines d'établissements. 80 d'après le collectif Interurgence, une cinquantaine selon le gouvernement. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
Le mouvement a même pris une forme inédite à l'hôpital Lariboisière à Paris avec une recrudescence d'arrêt maladie chez les soignants.
Oui, tout le service était en arrêt dans la nuit de lundi à mardi. La direction a pris ses dispositions. Mais pour le collectif Interurgence, qui en parallèle avec les syndicats anime le mouvement depuis la mi-avril, ce n'était pas une tactique, ni comme l'a dit la ministre Agnès Buzyn, une façon de dévoyer ce qu'est un arrêt maladie. Candice Lafarge, aide-soignante à l'hôpital Saint-Antoine et l'une des porte-parole du collectif.
Et ben, en fait, il y a eu 14 personnes qui ont été victimes de souffrances sur leur lieu de travail à force de se faire agresser, à force de dire qu'on est fatigué, à force de dire qu'on n'en peut plus psychologiquement. Et ben voilà, lundi soir, c'était 14 personnes, mais tous les jours, dans nos services d'urgence, c'est 5, 6 personnes, des fois 7 collègues qui sont en arrêt en même temps. Et personne ne se soucie de ces arrêts en continuité à l'année. Il faut qu'il y ait un mouvement de grève pour que 14 arrêts maladie fassent le buzz.
Le mouvement était d'abord parti de la PHP. Après des agressions à Saint-Antoine, il s'est élargi aux hôpitaux hors Île-de-France. Les revendications sont sensiblement les mêmes. Plus d'effectifs, des locaux sécurisés, du matériel suffisant et une revalorisation des salaires de 300 euros pour les aides-soignants et les infirmières que justifie Candice Lafarge.
Moi, ça fait 12 ans que je travaille. Je gagne 1 500,70 €. On est la première porte d'entrée de l'hôpital, c'est-à-dire que nous sommes exposés à des risques biologiques, physiques. On a choisi de travailler aux urgences, mais aujourd'hui, on s'essouffle. Aujourd'hui, on en a marre d'être victime d'agressions. On en a marre que cette première porte d'entrée de l'hôpital soit souvent mise à mal. En psychiatrie, ils touchent une prime. En hématologie, ils ont une prime. Alors pourquoi nous, aux urgences, on ne pourrait pas avoir une revalorisation salariale pour les risques que l'on prend tous les jours?
Vous l'avez dit Aurélie, 82 services d'urgence sur 120 hôpitaux publics sont en grève, c'est le chiffre des syndicats. La ministre parle plutôt d'une cinquantaine sur plusieurs centaines d'établissements, mais elle compte aussi les hôpitaux mixtes et privés.
Tara Schlegel, penchons-nous maintenant un instant sur le succès des podcasts. Selon Médiamétrie, un internaute sur 5 en écoute au moins une fois par mois. Radio France est d'ailleurs le premier producteur d'Europe. 1 million d'épisodes disponibles en permanence sur Internet. Nous espérons que vous en profitez. Et les plateformes qui agrègent ces podcasts se multiplient. Cybelle, Toutac, Magellan, des startups se dressent aux côtés des mastodontes Apple et son application dédiée ou encore Spotify. Ces plateformes ne proposent pas toutes le même contenu, que ce soit de l'information, des émissions en replay, des documentaires, de la fiction ou encore des livres audio. Elles fonctionnent en revanche à peu près toutes de la même façon. Elles proposent un catalogue de podcasts via une interface épurée. Mais ce qui coince, Antoine Jeufin, c'est que ces applications réutilisent des émissions qu'elles n'ont pas produites elles-mêmes.
Une image, Aurélie, donnée par un internaute sur Twitter, c'est comme si une plateforme vidéo, par exemple Netflix, prenait les contenus des chaînes de télé, leurs films, leurs émissions, leurs documentaires, et les insérait dans son propre catalogue sans l'accord des chaînes et sans contrepartie financière. Or, Radio France dit non et ne veut plus que plusieurs applications référencent ces contenus en l'état. Ils sont en accès libre, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on peut les reproduire librement, dit le géant de l'audiovisuel. Dans son viseur notamment, Magellan, la plateforme lancée hier par l'ancien PDG de Radio France, Mathieu Gallet. Ce dernier se défend, il était l'invité de Céline Bailly-Darcourt sur France Info aujourd'hui. Écoutez.
Tant qu'ils sont disponibles sur toutes les plateformes gratuites, pour quelles raisons ne serait-il pas disponible sur une plateforme d'une start-up française qui s'est lancée il y a 24 heures? C'est juste une histoire d'équité. Nous, on ne touche absolument pas à ces flux. On ne gagne pas d'argent, je tiens à le préciser. Il n'y a pas de publicité sur la partie gratuite.
Non, mais c'est
de
un produit d'appel pour avoir des abonnements payants.
C'est un service. C'est un service, effectivement, qu'on propose pour qu'à un seul et même endroit, sur Magellan, on puisse retrouver toute l'offre audio gratuite.
Et Radio France rappelle qu'aujourd'hui, elle choisit quels podcasts sont publiés sur les plateformes de ses partenaires, Apple par exemple. Mais c'est justement cette politique de distribution que fustige Pierre Denis, fondateur de Toutac, une autre application. Pour lui, la ligne de Radio France n'est pas claire. Le groupe, dit-il, devrait trancher. Soit il garde totalement ses contenus et personne ne peut les utiliser, soit il ouvre l'accès pour tous en libre concurrence. La tendance est à la négociation. Selon l'AFP, Radio France voudrait établir des partenariats avec les plateformes, histoire de garder le contrôle contrôle de ses productions et d'en partager les revenus.
Merci Antoine Geoffin. Et donc, n'hésitez pas à aller directement à la source et à venir sur notre site franceculture.fr. 11 départements du Nord-Est sont ce soir en vigilance orange pour orage. Demain jeudi, le temps redeviendra plus calme sur le pays, avec tout de même une petite instabilité dans le Nord-Ouest. Les températures minimales iront de 4 à 16 degrés de la Bretagne à la Côte d'Azur. L'après-midi, il fera 16 à 21 sur la moitié nord, 22 à 28 sur la moitié sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.